Șaful n-a tucu.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va?
Bonsoir, amis auditeurs, amis auditrices. C'est le retour du direct à l'antenne de Radio Canu.
Après Bamboo Station, c'est la causerie tous les dimanches.
Et des bandes continues quand même
entre les deux.
Entre les deux. Eh bien, comme tu le dimanche, on va commencer quand même par dire qui est dans les studios. On a la technique Clara. Bonjour, bonsoir.
Oh, c'était beau, c'était choral, c'était
oui,
magnifique.
C'est ça. Et donc Fab aussi qui
bonsoir.
Est là.
Bonsoir.
Et moi-même, bonsoir.
Jean-Yves, bonsoir.
Bonsoir. avant de partir dans nos sujets, comme à notre habitude, dirons-nous, on va vous rappeler comment nous joindre. Vous pouvez nous envoyer un mail à lacauseriecanu, tout attaché et en minuscule, lacauseriecanu@gmail.com. On a aussi, vous pouvez retrouver toutes les causeries et toutes les infos qui peuvent des fois s'attacher, qu'on peut rajouter sur le blog, et bien justement sur le blog de la causerie.
À blogs.radiocanu.org/lacauserie, où tu vas sur radiocanu.org et tu cherches les émissions La Causerie.
C'est ça. Et nous avons aussi un petit espace sur un réseau socio-commercial dont nous tairons le nom ce soir.
D'accord, on ne dit pas Facebook. Hein.
C'est ça, on le dit pas. T'as tout compris.
Ah ok. Et avant de commencer cette émission, j'ai une info qui vient de tomber et que je trouve assez importante de la relier. Suite à l'attentat qui a eu lieu au FSB en Russie, vous savez, il y a un jeune anarchiste qui a poussé au désespoir, je vais dire ça comme je le pense, a essayé de faire sauter le FSB en Russie. On parle de plusieurs dizaines de personnes qui ont été arrêtées pour anarchisme en Russie. Et on parle aussi de certaines qui auraient été déportées directement dans des régions pas très hospitalière, dans d'anciens goulags, voilà. Donc, maintenant on dit ancien camp de détention, voilà, c'est pareil, mais c'est juste le nom qui a changé. Et voilà, donc ça est tombé, ça vient d'arriver. Okay. Donc c'est une info que je voulais donner.
Et
on va commencer, de rien. Jean-Yves, on va commencer avec toi, et tiens, justement, ça n'a pas de grand rapport, quoique, parce que tu vas nous parler de répartition des richesses dans le monde.
C'est ça. Eh bien, ce soir, j'avais envie, en préparant cette émission, de vous causer de plusieurs rapports et études, en fait, qui concernent effectivement la richesse mondiale, les milliardaires et les dynasties, autrement appelées aussi les riches familles américaines. En gros, on va causer effectivement de la richesse dans le monde et de sa répartition, parce que c'est bien ça le truc, en fait. Hein. On partira donc d'une vision globale, mondiale, en passant, on va faire ensuite un zoom sur la situation des milliardaires, parce que c'est pas facile, et on terminera par un zoom sur quelques cas précis, effectivement, de milliardaires via ces dynasties américaines. Et alors, le premier rapport dont je veux vous parler, c'est le rapport annuel Global Wealth Report du... Pas mal, non ?
Pas mal, ouais. C'est... T'as fait mieux que d'hab.
Merci. Du Crédit Suisse, qui a été publié le 18 octobre. Alors, ce rapport, il nous apprend que la richesse mondiale a augmenté de quelque 14 000 milliards de dollars. J'ai bien dit 14 000 milliards de dollars. Pour atteindre 317 000 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 4,6%. Autrement dit, on va dire une croissance... économique mondiale de 4,6%. Vous savez, cette croissance après laquelle tous les pays font courir les gens, et ben c'est ça un petit peu. Donc juste, il y a une petite info aussi. Alors ces infos, moi je vous les tire de d'articles, etc. Donc l'idée, c'est que je vous donne pas mal d'infos et après je vais essayer de donner un petit peu mes réflexions là-dessus en tout cas. Donc effectivement, alors ce taux de croissance, en fait, étant supérieur à la démographie mondiale, la richesse par adulte progresse de 3,2% pour atteindre une moyenne record de 63 100 dollars. Bon, ben, regardez où vous vous placez sur cette moyenne. C'est toujours une moyenne. Donc, au palmarès de la richesse mondiale, en deuxième position, nous allons nommer la Chine, qui est toujours derrière les États-Unis.
Pas très loin, en fait, hein, quand on y regarde bien.
Ouais, alors, je crois que j'ai plus les chiffres de chaque pays séparément, mais... En tout cas, de toute façon, enfin, sur d'autres rapports, vous allez bien comprendre que oui, il y a des choses qui sont en train de se changer, qui sont en train de changer. Donc, ouais, la Chine, se classe deuxième derrière les États-Unis, et il faut savoir que l'Amérique du Nord et l'Europe cumulent à elles seules 60% de la richesse totale des ménages pour seulement 17% de la population mondiale, adulte mondiale. Donc, selon ce rapport, il y a aussi désormais 2 147 000 ménages français qui possèdent un patrimoine supérieur à 1 million de dollars. Alors, je peux peut-être vous rassurer, ce n'est pas le cas des gens de la causerie. Voilà.
Qui en aurait douté. Je veux dire, franchement, à un moment donné.
Sous-marin, tu vois, pour se donner un côté, waouh, on est chez les rebelles, tu vois. Et alors qu'en fait, on pète dans la soie. Eh ben non, c'est pas le cas.
Non, toujours dans le coton.
C'est ça. Alors, parlant de la France, effectivement, alors la France, en fait, elle enregistre la deuxième meilleure progression du nombre de millionnaires, entre la mi-2017 et la mi-2018, après celle des États-Unis. Et la France, comme l'Allemagne, compte aujourd'hui 5% des millionnaires du monde entier.
Quand on sait que la France, c'est le pays où il y a le plus de dividendes reversés aux actionnaires, c'est pas...
Ça se tient, quoi. Ouais. Et la petite parenthèse, ouais, parce que ça, c'est quand même... Donc, souvenez-vous, en France, c'est 2 147 000 ménages qui possèdent un patrimoine au-delà d'un million. Eh bien, cette petite parenthèse, c'est qu'en faisant en fait les recherches pour ce sujet, en fait, eh ben, je suis tombé sur un article de 2014 à propos du même rapport de la même banque et qui disait qu'en 2019, avec une croissance de 70% de leur patrimoine, les Français seront 1,7 million à disposer d'une fortune de plus d'un million. Et ben, comme quoi, en fait, la réalité a largement dépassé les projections. Fermons la parenthèse.
Ça démontre que quand vous avez un gouvernement qui se dit de gauche pendant 5 ans, les millionnaires vont bien.
Ouais, c'est ça. Ben voilà. Oui, c'est ça.
Et plus celui qui est arrivé après.
Mais ça, c'est la théorie, du ruissellement, oui. Tout ça. Et alors, donc, toujours selon ce rapport, en fait, la fortune mondiale devrait progresser. Donc là, on est dans les projections. Ben oui, attends, s'ils s'arrêtent jamais, ces gens-là, de projeter.
Ah, c'est
donc,
leur job.
Ben oui. La fortune mondiale devrait donc progresser de près de 26% au cours des 5 prochaines années pour atteindre le chiffre de 399 000 milliards de dollars d'ici 2023.
Donc ça, ce serait le PIB mondial en 2023.
C'est ça, donc une croissance annuelle d'environ 5% ouais, et plus, en fait. 5,2. Donc c'est bien plus haut. Donc voilà, donc les marchés aussi, enfin les dernières infos dans ce rapport-là, c'est les marchés qu'ils dénomment émergents, généreront le tiers de la croissance, bien qu'ils ne représentent que 21% de la richesse actuelle.
En gros, ils misent sur l'Asie et l'Afrique.
Ben oui. Eh oui. Et le nombre de millionnaires devrait aussi progresser d'ici à 5 ans pour atteindre le record de 55 millions.
55 millions de millionnaires dans le monde.
C'est ça.
Pas mal, quand
ouais,
même.
C'est pas mal. Hein. Et il est à noter aussi, il y a une info, que les femmes détiennent 40% de la richesse mondiale et que c'est en Europe et en Amérique du Nord que l'on trouve les proportions les plus élevées de femmes milliardaires. Alors, ben, je vous propose directement de passer au deuxième, à moins que tu avais des choses.
Non, vas-y. Non.
Allez, on passe alors à l'autre étude, hein, qui elle a été publiée le 26 octobre. Toujours par un truc suisse qui s'appelle UBS.
Vous pouvez compter sur les banques suisses pour faire des rapports sur la richesse, il n'y a aucun problème.
C'est ça qui est magique. En partenariat donc avec un cabinet d'audit. Alors ce rapport-là, lui, il est sur les milliardaires. Hein. Alors celui-ci, alors ce rapport-là, hein, cette étude, pardon, nous informe en fait que la fortune des 2158 milliardaires de la planète a augmenté de 19% en 2017. Pour atteindre 8 900 milliards de dollars. L'augmentation de la fortune des milliardaires chinois, elle, a été deux fois plus importante et plus rapide. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une augmentation de 39%. Et ce qui prend forme, en fait, et ça c'est quand même... l'image est assez forte, ce qui prend forme par l'apparition de pas moins de 2 milliardaires par semaine en Chine.
C'est un bon rythme.
C'est vraiment sympa. Et ben justement, on peut aussi, ça peut résonner, là je vous disais avant, les milliardaires, leur fortune a augmenté de 19%. Ça peut résonner avec le chiffre dont je vous donnais avant, enfin le résultat, c'était la croissance mondiale, qui finalement, elle, était que, entre guillemets, hein, le que, de 4,6%.
Bah, ça démontre bien, en fait, la spoliation, comme on dit, en fait, le fait de capter le gros des richesses par les plus riches. Parce que sinon, on devrait avoir la même progression pour les plus riches et pour les plus pauvres.
C'est ça.
Et comme ce n'est pas le cas, on comprend bien pourquoi.
Bah ouais, c'est qu'il y en a qui doivent se faire.
Il y en a qui se gavent un peu quand
ouais,
même.
C'est ça. Et d'autres qui se font, qui se font faire les poches. Et en 2017, donc, la zone Asie-Pacifique comptait 814 milliardaires, contre 715 sur le continent américain et 629 dans la zone regroupant Europe, Moyen-Orient et Afrique. Donc 414 dans l'Europe, en Europe de l'Ouest, et la Chine à elle seule comptait 373 milliardaires en 2017 contre seulement 16 en 2006. Vous voyez là.
Bah, on comprend aussi maintenant pourquoi l'Europe et les États-Unis se battent pour éviter que ne se crée un grand pôle asiatique. C'est une union en fait, parce qu'il y a plusieurs pays asiatiques qui espèrent un jour avoir une sorte d'union entre la Chine, l'Inde, voilà. Et on comprend pourquoi en fait les États-Unis comme l'Europe torpillent en permanence ce risque-là.
Le pognon, c'est
bah,
le pouvoir,
oui, exactement.
Dans une société capitaliste.
Tout à fait.
Et enfin, le dernier rapport, hein, vous avez vu, le deuxième était assez rapide. Le dernier rapport, lui, il cible donc plus spécifiquement en fait les dynasties américaines, comme je vous le précisais en début. Et alors, ce rapport, il faut déjà savoir par qui il est fait. Il est fait par l'Institute for Policy Studies. En fait, c'est un think tank né en 63, en fait, qui a été fondé par d'anciens membres de l'administration Kennedy. Mmh. C'est toujours intéressant de savoir qui parle, d'où ça parle.
C'est l'équivalent de Terra Nova en France.
C'est ça.
Pour ceux qui cherchent un équivalent.
C'est un truc démocrate.
Ouais, enfin, libéral gentil, comme ils disent.
C'est ça, libéral de gauche.
Voilà.
ou de centre-gauche, pour pas les vexer. Ce rapport, il révèle en fait la place des inégalités de richesse aux États-Unis et analyse le développement des dynasties sur plusieurs générations. Alors, l'étude, en fait, qui se penche donc sur 15 dynasties familiales issues de la liste Forbes 400. Donc, si vous tapez Forbes 400...
Oui, c'est
400,
les 400 plus riches américains. Forbes, chaque année, la met à jour, pardon.
C'est ça.
Et voilà.
C'est ça. Et qui a aussi été complétée avec des données de la Banque Centrale Européenne... Américaine, pardon. La Fed. Donc, selon ce rapport, en fait, les trois descendants examinées ont vu leur richesse grimper en moyenne de 5868% depuis 1982.
Ça va, c'est une petite progression.
C'est ça. Alors que le revenu moyen d'un ménage américain, lui, il a baissé de 3%.
Il n'a pas augmenté de 5800.
Ah bah non, alors, bizarrement, lui, il a baissé de 3%
ça,
depuis 82. Hein.
Moi, c'est étonnant parce que normalement, avec le ruissellement, ça retombe.
C'est ça. Il y a un truc qui doit clocher. Il doit y avoir un barrage. Des castors qui ont dû faire un barrage.
Il y a des bords.
Donc, les auteurs, hein, donc ils ciblent les Walton, c'est les fondateurs de l'empire agroalimentaire que vous connaissez à peu près, je pense, tous au moins de nom, c'est Walmart. On a les Koch ou les Koch, je sais pas comment ils le disent. Ça, c'est la Koch Industry qui dispose en fait de filiales dans le génie pétrolier et la chimie. Donc c'est intéressant aussi de voir les différents domaines, et puis secteurs.
C'est surtout une famille qui détient énormément de brevets qu'on utilise encore aujourd'hui. Et en fait, ils s'arrangent toujours pour que ces brevets soient renouvelés. Ce qui fait que ça leur garantit une somme d'argent qui rentre énormément. Quoi.
Et donc, à ces deux premières familles, il y a aussi les Mars qui dirigent, vous l'aurez compris, la Mars Incorporated. C'est donc un groupe d'alimentation.
Les barres chocolatées, c'est eux ?
C'est tout à fait ça. Et qui possède donc à eux seuls plus que 4 millions de foyers américains.
Tout va bien.
Il y a des vies qu'on n'imagine même pas. Alors, ce trio représente à lui seul une manne de 348,7 milliards de dollars. Quand la famille médiane américaine type ne gagne pas plus de 80 000 dollars par an. Voilà. Alors bon, évidemment...
Tu parlais de la famille médiane, ça veut dire toute une famille. Moins deux personnes qui travaillent dans le foyer. Quoi.
Et on est médiane, c'est pas la moyenne.
Médiane, oui, c'est autant au-dessus, autant en dessous.
Hein. Voilà. Et alors évidemment, c'est des résultats qui sont jugés désolants et historiques pour la première puissance mondiale, qui illustrent un système économique profondément déséquilibré.
C'est pas bien.
C'est la gauche américaine, en tout cas les démocrates américains sont comme le PS, ils découvrent que le capitalisme, merde, c'est pas super en fait.
Ils découvrent que le capitalisme, ça sert les capitalistes. Ça, c'est quand même un truc.
Non, mais c'est dingue.
On n'y aurait pas cru.
Non, mais on fait des avancées, je pense. Pour un des auteurs, Chuck Collins, il dit les dynasties surviennent lorsque les familles esquivent les impôts, donnent peu aux organismes de charité, on est aux États-Unis, et utilisent leur dynastie pour cacher leurs richesses.
Oui, parce que en fait, aux États-Unis, il y a un cache-sexe qui existe depuis des années. Ouais. C'est les fondations, Bill Gates, tout ça, machin, qui donnent l'impression en fait que ces riches-là seraient moins pourris que les autres. Sauf qu'en fait, leurs fondations servent à leur apporter. Il faudrait vous renseigner sur ce qu'est une fondation.
Ils
perdent pas d'argent dans l'histoire.
Donc c'est là où c'est justement. Je trouve que c'était intéressant de préciser qui a commandé cette étude et l'a faite, parce que effectivement, les analyses, on peut se dire, en fait, c'est des analyses ou en tout cas des angles de lecture qui sont propres à des gens qui se disent démocrates, quoi, ou ils cherchent pas à révolutionner le monde, quoi. Le chercheur déplore la concentration croissante entre quelques mains de la fortune aux États-Unis. Ainsi pointe-t-il dans le rapport que Jeff Bezos, c'est le gars de Amazon, Bill Gates et Warren Buffett sont à eux trois plus riches que la moitié la plus pauvre de la population américaine.
Alors qu'ils ont tous eux des fondations, comme quoi,
c'est bizarre.
C'est étrange.
Oh là là, on n'y comprend rien. Ah, on y comprend trop bien. Et si le 2 octobre Amazon, donc la firme de ce monsieur Bezos, a sous pression décidé d'augmenter son salaire minimum à $15 à l'heure, un travailleur à temps plein de son entreprise devrait travailler environ 2,5 millions d'années pour générer autant d'argent que son fondateur en une année.
C'était une petite augmentation, en fait, pour le monsieur qui l'a faite.
Ah bah oui.
Monsieur Bezos, ça allait bien, en fait.
Oui, lui, ça va. Le rapport, évidemment, il tente de remédier à ce phénomène et préconise des réformes. Alors déjà, je pense qu'aux États-Unis, réformes autour du fric, je pense qu'ils doivent passer bientôt pour communistes. Mmh. Je veux leur dire, faites attention les gars quand même, n'allez pas trop loin.
Ça n'a pas réussi à Kennedy. Méfiez-vous.
C'est ça. Alors parmi celles-ci, il parle de la création d'une taxe directe sur la richesse. Tiens, c'est ce qu'on a fait sauter en France, non ?
Oui. En fait, si je les connais un petit peu, et de mémoire, ils sont pour l'instauration d'une forme de sécu, de retraite, de choses comme ça. Ils ont une petite vision un peu plus proche de la vision européenne. Ouais.
Et donc, pour les personnalités qui gagneraient plus de 20 millions de dollars par an, ainsi qu'une taxe sur l'héritage.
Oui, parce que c'est pas taxé aux États-Unis.
Mais c'est aussi un truc qu'ils veulent faire
en France, bien sûr.
C'est ça.
C'est pour le ruissellement. Parce que ça marche bien, on a l'exemple aux États-Unis, on se dit tiens, on va faire pareil.
Donc voilà pour ces trois rapports, évidemment, moi je me dis en fait, qu'est-ce que ça rapporte en fait, ces rapports ? Alors selon moi, en fait, ils nous confirment juste en fait que déjà, justement on en parlait avant, c'est que la théorie du ruissellement en fait n'est effectivement en fait qu'une théorie. Parce que la réalité démontre rapidement en fait que ben elle ne sera jamais une réalité en fait.
C'est exactement comme la théorie de la Terre plate. Hein. Oui, vous pouvez y croire, mais c'est pas
ça.
Vrai.
Mais c'est pas vrai. C'est ça. Voilà, en fait, pour oui, c'est ça.
C'est un peu une voilà.
C'est une théorie.
C'est de la même, du même ordre.
Donc l'autre confirmation aussi, c'est que ben c'est enfin selon moi encore une fois, c'est la modification du monde en fait et du pouvoir qui bouge et on en a déjà parlé ici et de la position de la Chine qui devient de plus en plus importante parce que elle pèse de plus en plus lourd. Et donc, ça explique aussi hein, les crises d'autoritarisme d'un monsieur Trump et la guerre commerciale qu'il souhaite évidemment faire à la Chine. Parce que lui, il ne veut pas perdre sa première place.
Bah, sauf qu'il est parti pour et qu'il le sait aussi.
Ouais,
c'est à ça. Un moment donné, il faut être réaliste.
Et ça confirme aussi, hein, pour celles et ceux qui en auraient quand même encore besoin hein, de ce genre de confirmation, c'est que, bah, que toutes les positions, en fait, et positions juridiques, etc., prises en fait, par les gouvernants, en fait, que ce soit en France ou ailleurs, ne sont jamais finalement que la perpétuation du vol des richesses produites par vous et moi en bas au profit de la bourgeoisie, au profit du patronat et des possédants en fait. Donc rien de neuf, c'est la répartition des richesses qui comme toujours a depuis toujours aussi été le nerf de la lutte en fait parce que bah ouais en fait le problème c'est qu'il y a du pognon et encore une fois bah, comment il est réparti et croire encore une fois là aussi parce que j'ai l'impression que des fois, c'est comme si on avait dépassé en fait ce stade et qu'on serait aujourd'hui toutes et tous dans le même bateau. Ben ouais, parce qu'on est tous des humains quand même, tu vois. Et de la base, hein, de la pyramide jusqu'au sommet, ben ouais, effectivement. Et qu'en fait, ben c'est qu'une croyance, hein, les gens. Arrêtez, n'y croyez pas. C'est parce que les faits, encore une fois, ils démontrent vraiment clairement... bah, que c'est pas le cas.
Il n'y a jamais eu, en fait, finalement, aussi peu d'argent donné aux plus pauvres que donné aux plus riches qu'aujourd'hui, en fait.
Ouais,
et dans l'histoire de l'humanité.
Hein. C'est génial, hein.
Donc, c'est impressionnant de se le dire.
Mais ouais. Et cela confirme aussi, et encore une fois, hein, que le capitalisme, en fait, il ne se réforme pas. Il se combat pour être détruit, en fait. Donc, moi, je suis d'avis, alors c'est un avis très personnel, et d'un point de vue anard aussi, c'est arrêter de croire les fables des politiciens, qu'ils soient soi-disant insoumis ou autres. Ils ne veulent qu'amender le capitalisme, en fait. Mmh. Ils ne veulent pas le virer, parce que tiens, il y aurait que ça comme système viable pour toutes et tous. Ben moi, je trouve que ces trois rapports, en fait, ils montrent bien que c'est absolument pas viable pour toutes et tous, en fait. C'est viable pour quelques bourges. Alors attention, je dis pas, ils sont nombreux, hein, tu me diras. Mais je pense qu'on sera toujours plus nombreux qu'eux, en fait. Ça aussi, il faudra un jour en prendre conscience. C'est qu'ils sont forts par l'argent, et nous, on est forts par le chiffre, en fait. Donc, enfin, par le nombre qu'on est, en fait. Donc voilà, donc c'est très utopique, mais je pense qu'il faut
continuer. Faut l'être.
Mais oui, sûrement aussi. Et que, oui, enfin voilà, il faut arrêter de croire ces conneries-là. En fait, le capitalisme, il s'amendera jamais à notre profit, en fait. C'est pas vrai. Et parce que, justement, en fait, c'est que quel que soit le pays, en fait, des très libéraux États-Unis, en passant par le capitalisme d'État chinois, oh là là, la grande Chine, et en passant par la France et son, entre guillemets, modèle social, ben, en fait, on observe exactement les mêmes choses, quoi. Donc voilà, et je pourrais aussi évidemment aller et relever vers l'écologie et que ben, nos conditions de vie ne peuvent pas s'améliorer dans un système économique qui cherche une croissance infinie sur un monde qui lui est fini en fait. Et ça, alors après, ouais, on va toujours nous faire peur, on va toujours tous se faire peur en disant oh, au mois d'août, on a tout bouffé. Ben ouais, mais en fait, si on continue de courir après cette croissance capitaliste, ben en fait, on continuera de bouffer le gâteau 6 mois avant. Mais c'est logique en fait. Tout est logique et tout est attaché, tout est relié les uns aux autres, quoi. Donc voilà, parce qu'effectivement, on le sait, la croissance capitaliste n'est que destruction et que le capitalisme n'est que accaparement, vol et pollution. Donc voilà, moi ce que je vous invite encore, hein, évidemment, c'est à lire tous les ans ce genre de rapport, parce que je pense que c'est aussi des outils pour nous. Alors je dis pas qu'on doit tous les comprendre sur le bout des doigts, etc., mais qu'il faut comprendre
en fait, la logique.
En comprendre la logique et en mesurer les choses en fait. Et que vraiment, encore une fois, je crois qu'il ne faut pas être dans l'incantation, etc. Il faut être sur du matériel, en fait. Et apporter du matériel, de la réflexion, même si peut-être qu'une majorité de gens n'ont plus envie de réfléchir et s'en foutent.
Ben, je crois pas à ça, franchement.
Ben, je pense que c'est à nous.
Je crois que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'amener les outils.
Justement, je pense qu'il faut qu'on amène des billes, qu'on s'appuie sur ces choses-là, en fait. Ça, c'est pas un truc, c'est pas un groupe de gauchistes ou d'anarchistes qui a sorti ce rapport-là, en fait.
Non, c'est un groupe de banquiers.
C'est ça.
Il y a peut-être des banquiers gauchistes, j'en sais rien.
Mais... peut-être.
mais c'est comme les poissons volants. Non, mais ceci dit, moi, il y a dans ton rapport, enfin dans ce que tu disais dans le premier rapport, quelque chose qui m'a choqué. Moi, je me souviens de gens qui sont à la tête de partis de gauche. Alors, je ne les citerai pas, mais vous les connaissez, qui nous expliquaient que quand même avoir un patrimoine d'un million d'euros, c'est quand même pas rare. Ben en fait, si. Mais oui. Et en fait, si, parce que c'est 2 millions et quelques de personnes sur 67 millions.
C'est ça.
Donc si, c'est rare en fait. Et donc non, c'est pas justifiable.
C'est ça. Voilà. Donc, en fait, on est majoritairement gouverné par des riches gens qui nous voudraient nous faire croire qu'ils font des trucs pour nous, alors qu'en fait, leur classe n'est que de plus en plus nombreuse et de plus en plus riche. Voilà. C'est marrant ça. Tiens, autre chose ?
Non.
On passe à la ZIC ?
Ouais.
Eh bien, allez, on y va. Eh ben ouais, c'était la causerie, enfin c'est toujours la causerie, dis donc. Et on vient de s'écouter Cadillac, j'ai envie de crier, pardon, j'ai envie de hurler. C'est donc Cadillac avec le titre Game Over, c'est le premier extrait de son album à venir. Alors Cadillac, pour vite faire, c'est un des chanteurs de Stupéflip qui
non,
fait un album solo, oui évidemment. Et je voulais juste dire, il passe en concert sur Villeurbanne, je crois, le 16 novembre.
Voilà.
Eh bien, en sujet 2, eh bien, ah non, ben enfin ouais... c'est Fab qui va commencer à nous parler.
Calme-toi, je te sens quoi. Particulièrement.
Oui, je vais essayer de respirer.
Oui, donc je voulais vous parler des squats très très vite. Alors, vous savez, nos chers législateurs, hein, qui n'ont que notre bien-être en tête, évidemment, ont encore fait une jolie petite un joli petit coup de Trafalgar dans la dernière loi logement, qui s'appelle la loi Élan, vous savez, vous avez entendu parler, qui a été votée en catimini, hein, parce que je vous rappelle qu'elle a été votée avec très peu de monde, et ils ont ajouté en fait ce qu'on appelle un cavalier législatif. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le truc, hein. Alors, pour mémoire, un squat devenait plus difficilement expulsable quand l'occupation était prouvée lorsqu'elle avait plus de 48 heures et qu'un contrat de fourniture énergétique ou téléphonique existait à l'adresse du squat. Ça, c'était une sorte de jurisprudence jusqu'à maintenant. De plus, s'ajoutait à ça le fait que lorsque la trêve hivernale, qui généralement allait de novembre à mars, était en place, les squats n'étaient plus expulsables, enfin étaient encore moins facilement expulsables. C'était possible, mais il fallait faire des allers-retours judiciaires extrêmement longs, ce qui permettait aux gens qui squattaient d'avoir le temps de respirer. Seulement dans la loi Elo, hop, caché sous deux autres amendements, au milieu de deux autres, parce que sinon c'est pas marrant, voilà que les squats sont exclus tout simplement de la trêve hivernale. Et oui, vous entendez bien. Et donc, selon le porteur de cet amendement, c'est pour le bien des propriétaires qui sont spoliés de leurs biens. Oui, il l'a dit comme ça, ça, je trouve ça drôle. Donc, il faut quand même avoir du cran, hein, quand on débutait La République en marche pour sortir des pareilles sornettes. Donc voilà. Oui, alors je vais lire ce qu'il a dit. C'est une mesure juste pour les propriétaires qui découvrent leur maison principale ou leur résidence secondaire occupée illégalement et à qui on expliquait qu'il fallait attendre début avril pour qu'ils la récupèrent. Alors je rappelle que le fantasme de la maison qui est occupée d'un seul coup comme ça, qu'on ne sait pas trop pourquoi, et quand on rentre de vacances, c'est un fantasme. Il n'y a aucun cas qui a été référencé. Bref, donc c'est le monsieur s'appelle Richard Lioger, voilà. Donc c'est vrai qu'il faut détester demain. Et voilà. Bon, on est prié de le croire, hein, ils vont l'appliquer que pour les maisons de particuliers, hein, surtout pas pour les bâtiments publics, évidemment, oui. Ça se saurait. Voilà, et donc il y a le monsieur Dudal 31 qui dit « En fait, cela existait déjà, mais les juges souvent prenaient en compte la situation des familles et la période hivernale. Si vous retirez les squats de la protection dite de la trêve hivernale, ce n'est plus le cas, on régresse donc massivement sur le droit au logement. » Voilà. Donc en gros, vous l'aurez compris, la guerre à celles et ceux qui soit ne peuvent pas vivre autrement, soit souhaitent vivre hors des codes de la société capitaliste est relancée. Et il va donc falloir être là pour éviter les expulsions, et maintenant toute l'année.
Mais c'est formidable. Moi je me dis vraiment, La République en marche, c'est vraiment trop trop neuf.
C'est la politique comme avant.
C'est ça, mais avec des plus jeunes.
Et en parlant de politique comme avant, il y a eu une grande guerre il y a 100 ans, mais chanter des chansons de cette guerre, ça pose problème alors.
Ouais, c'est ça, parce qu'effectivement, le journal La Nouvelle République nous apprend, dans son édition du 27 octobre, qu'à Tournon-Saint-Martin, c'est dans le département de l'Indre, des élèves qui devaient entonner la chanson des mutins de 1917 lors des cérémonies ont été censurés par le directeur académique.
Il y a la chanson de Crâne, quoi.
Eh ouais, j'allais y venir. Chanson symbole des grandes mutineries du printemps 1917, consécutive aux attaques meurtrières décrétées par l'état-major. La chanson de Crâne fait évidemment partie d'un certain patrimoine. En tout cas,
c'est clairement partie d'un patrimoine.
Ben bah voilà. Et je voulais quand même rappeler aussi, c'est que cette chanson en fait a connu un immense succès en fait dans les tranchées, qu'elle a fait l'objet en pleine guerre à l'époque d'investigations policières pour en découvrir le parolier, qui est toujours inconnu aujourd'hui.
Anonyme.
Certainement hein, en vue de le traduire en conseil de guerre et d'obtenir si possible hein, à l'époque évidemment qu'il soit passé par les armes comme fusillé pour l'exemple. Ce serait pas le seul. Il y a quelques centaines de fusillés pour l'exemple, ne l'oublions pas.
Surtout du côté français.
Oui. Évidemment, ouais, on est, il y a eu plus de 500, plus de 600 fusillés.
On est le pays qui avons fusillé le plus de gens pour l'exemple.
Et alors, comment que ça se fait donc? Qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur, là, directeur académique? Eh bien, il nous dit, j'assume totalement. Il s'appelle Jean-François Cachet. Hein,
il peut être à La République en marche, lui aussi. C'est une leur phrase qui commence toujours par « j'assume totalement ».
Voilà. C'est comme Macron, c'est vrai. J'assume totalement, hein, puisqu'il a été contacté par un journal. C'est le préfet qui m'a averti à la suite de remontées émues venant de gendarmes et de militaires. Mais je tiens à préciser que M. Morzy ne m'a ensuite donné aucune consigne particulière.
Donc non. Le préfet lui a pas demandé de l'interdire.
Non, c'est juste que ce directeur académique a été ému par ses remontées, qui elles-mêmes étaient émues de gendarmes et militaires. C'est marrant, ils sont émus dès que tu les heurtes un petit peu sur une guerre qui était il y a plus de 100 ans. Par contre, les gens qui font crever sur les ZAD dans les quartiers ou dans d'autres guerres ailleurs, ça les émeut vachement moins. Donc ce monsieur continue, hein, il dit « Pour moi, il y a deux notions très différentes. » Et faut écouter bien, parce que je trouve que c'est très très intéressant. Dans cette affaire, dit-il, hein, il y a donc deux notions différentes. La première, c'est que l'enseignement de l'histoire de France ne doit occulter aucun passage, notamment les mutineries de 1917 et les fusillés pour l'exemple. Il faut évidemment, hein, dit-il, continuer à étudier ces terribles épisodes et le faire de manière scientifique, avec une mise en perspective. En procédant ainsi, dit-il, on met tout simplement une vérité historique en lumière. Je n'ai évidemment jamais eu l'intention de passer ces épisodes sous silence. Ok ? Attaquons le second volet. Le second volet, complètement différent, dit-il, c'est la question de la commémoration. Les cérémonies du 11 novembre 2018, celles du centenaire de la fin du conflit, auront une ampleur exceptionnelle. Elles doivent être des moments de recueillement et d'union nationale. Il est hors de question d'entraîner de la discorde en de pareils instants. Les professeurs l'ont d'ailleurs très bien compris et n'ont fait aucune difficulté. Vraiment, il n'y a là dedans aucune censure. Simplement, l'éducation nationale a l'obligation et le devoir, écoutez bien, de participer à l'esprit de concorde qui doit présider à de telles cérémonies. Faire chanter Crown par des enfants en de pareils moments peut être une source de division. Voilà, il est gentil. Hein.
Alors c'est drôle de dire, il faut l'étudier dans son ensemble scientifiquement, mais il faut réécrire l'histoire quand ça nous arrange.
Non, il faut juste le garder dans les quatre murs d'une classe.
C'est assez dingue, quoi.
Et donc le maire de Tournon-Saint-Martin, lui, il a réagi, hein, Dominique Hervaux. L'histoire est une et indivisible, dit-il, on ne saucissonne pas. Notre cérémonie est organisée ainsi depuis 3 ans et cela ne choque visiblement personne. Les chansons sont étudiées en classe et font l'objet d'un vrai travail pédagogique. Je tiens enfin à rappeler que la commémoration est organisée hors du temps scolaire. Donc en fait, tu peux dire... Pourquoi il est venu parler, même le directeur académique, en fait.
Oui, tout à fait.
Mais bon, il fallait qu'il affirme son autorité de directeur académique, enfin. Alors, donc, voilà, bah, les enfants continueront normalement de chanter les choses. La chanson de Craon et évidemment la Marseillaise. Hein. Et ils liront aussi des lettres de Poilu. Et il termine par « Mais on continue, c'est ferme et définitif. Cela permettra d'organiser une célébration digne de ce nom. » Donc évidemment, aux dernières nouvelles, vraiment, j'ai essayé d'en trouver. Normalement, la chanson de Craon devrait pouvoir être chantée, vu qu'elle est hors du temps scolaire, etc. etc. Et il faut quand même se rappeler, hein, que cette chanson, en fait, elle a été interdite de la Première Guerre mondiale jusqu'en 1974.
Hein. C'est énorme. Hein.
C'est énorme, effectivement. Et tous les ans, hein, on a évidemment droit, parce que vraiment, je vous invite, tapez chanson de Craon, censure ou des choses comme ça, et vous allez trouver des articles d'à peu près toutes les années, parce que toutes les années, il y a un politicard ou un directeur académique ou je ne sais quoi.
Ou un ancien combattant.
Ou un ancien combattant, ce qu'il y en a eu aussi, qui va nous faire un petit sursaut d'autorité, un sursaut militariste, patriotique, et qui tente de censurer ce titre. Alors, évidemment, toujours pour des raisons et par des mots qui ne sont jamais issus du champ lexical de la censure. Non, évidemment. Mais ça amène à ça.
Ça marche mieux la censure quand elle est cachée.
Mais oui, bien évidemment, ça fait moins censeur.
Bah ah ouais.
Et donc, je ne vais pas faire long feu, mais on ne répétera jamais et ici comme ailleurs, hein, mais... guerre à la guerre, et pas surtout, c'est là aussi où il faut que nous, toutes et tous, en fait, en tout cas les antimilitaristes, c'est pas qu'au mois de novembre, en fait, qu'il faut qu'on ouvre nos gueules sur la guerre, qu'on dénonce la guerre, c'est pas que maintenant, et c'est pas que selon le calendrier de l'État, parce que sinon,
non, c'est tout le temps.
C'est toujours là, encore une fois, les suivre, et je me disais, peut-être qu'il faudrait pas non plus qu'on attende trop de l'éducation nationale, qu'elle développe une fibre pacifiste, antimilitariste chez les élèves.
C'est
en
pas
fait.
Son boulot.
Ben non, c'est pas son boulot, le monsieur l'a bien rappelé. Hein. Ben non, parce que l'État, en fait, faut pas l'oublier non plus, hein, l'éducation nationale est directement reliée à l'État quand même. Et ben, l'État, quel qu'il soit, il a été, il est et sera toujours militariste. Hein. Il y a très peu de pays qui sont pas militaristes. Et en fait, tous ceux même qui ont pas d'armée, vous pouvez faire aussi des recherches, ils sont tous sous le protectorat militaire d'autres pays. Donc finalement, tout le monde est assez militariste, donc nous sommes bien plus qu'une minorité, rassurons-nous, malheureusement. Et je vais terminer juste par rappeler quand même, enfin, 2-3 choses, je trouve que c'est intéressant, c'est qu'il y a la Fédération anarchiste, en fait, qui fait une campagne fédérale antimilitariste contre toutes les armées et le nationalisme. Je vous invite à aller voir sur ABBA, toutes les armées, noblogs.org. On mettra peut-être le lien sur le blog. Voilà. Et je voulais aussi rappeler que jeudi 15 novembre, à Sainte-Foy-lès-Lyon, il y aura le spectacle Putain de guerre, le dernier assaut. Non, vous en avez parlé dans la causerie du 22 avril, la 249. Et donc, ça sera le 15 novembre avec Dominique Grange, Jacques Tardy et Accordéam et la projection. Enfin, tout. Allez-y, courez-y si vous avez le temps, les moyens, etc. Ça sera donc jeudi 15 novembre à 20h au ciné Mourguet. Et là, vu que j'y pense, sur le blog de la causerie, il y a des lectures aussi antimilitaristes qu'on vous invitera toujours à réécouter, quel que soit le mois de l'année.
Tout à fait.
Musique. C'est tout bon ? Musique.
D'ailleurs.
On écoutait les coups de pioche en espérant que la relève nous tirerait du trou à rats où nous étions. Vauquois, c'était le nom de l'endroit. Le village de Vauquois avait été complètement bouffé par en dessous, il n'en restait plus rien. Ils appelaient ça la guerre des mines. Des tonnes d'explosifs qui vous éclatent sous les fesses, ça n'a rien d'agréable, croyez-moi. C'est la relève qui s'est retrouvée engloutie au fond d'un cratère gigantesque. On avait fait fi ça pour vider les lieux. Les pauvres gars qui nous remplaçaient avaient, eux aussi, entendu les coups de pioche. Et puis plus rien. Et puis une grande déflagration. Et puis plus rien. Vauquois, c'était le nom de l'endroit. Dans quel état croyez-vous qu'on commençait une nouvelle putain de journée de guerre en première ligne après avoir passé une nuit de plus au fond d'un abri humide ?
Oups ! Et voilà, c'est pas moi la technique, mais c'est moi qui ai fait de la merde, non pas sur le CD. En fait, on s'est planté. Enfin, je me suis
planté de CD.
Je me suis trompé de CD en fait. Et donc là, vous avez des lectures issues du spectacle, justement de Jacques Tardy et Dominique Grange. Je suis désolé, on voulait vous passer la chanson de Craon. Vous pouvez évidemment la retrouver sur les internets et partout ailleurs. Je suis désolé pour ces petits soucis techniques.
Pas grave, j'aurais gagné un peu de temps.
Ouais,
ça.
C'est ça. Et bien justement, donc c'est Fa qui prend la suite.
Oui.
Et tu veux nous parler de fantômes ?
Ouais, je vais vous parler de fantômes. Vous avez dit fantômes.
Voilà,
oui, ça fait peur. Alors, ce qui fait encore plus peur, c'est qu'au départ, ma chronique part de Têtu. Alors là, déjà, on se dit, c'est un peu bizarre, quoi, les fantômes, bah, oui. Têtu. Alors, Têtu, c'est le magazine de référence LGBT, hein, je vous rappelle, d'après eux. Ah. Alors, le 31 octobre, pour Halloween, cette fête faussement païenne, mais pleinement gavée de merchandising et de peurs infondées, le magazine Têtu a donc publié un article sur le web, parce que pour l'instant, il n'existe que sur le web, il demande à réexister en papier et délai, soi-disant. Enfin, moi, je ne les aiderai pas, mais faites comme vous voulez. Sur le fait que les personnes non-binaires et lesbiennes seraient plus sensibles aux fantômes. Voilà. Bon, alors, au départ, on croit à une bonne blague. On se dit, c'est le 31, ils ont fait une blagounette, c'est marrant et tout. Ben, en fait, non, l'article est assez sérieux, en fait. Il est écrit sérieusement. Et il s'appuie sur un site américain, comme toujours avec Têtu, et qui aurait fait une étude scientifique, comprendre en fait un sondage, hein, parce que faut pas non plus déconner, et qui aboutit à ce résultat. Bon, alors il y a déjà de quoi se marrer, hein, quand même. Si vous, je vous invite à lire l'article, il est totalement bidon, et on en parle, vous parle même des signes astrologiques. Coucou Georges, ça te fera plaisir. Et donc voilà. Et donc, voilà. Moi, ça me choque un peu parce que Têtu, comme je le redis, est vu comme la référence sur les questions LGBT. Je me dis, alors là, franchement, on sombre dans le crétinisme le plus absolu. Mais un truc à la fin de l'article qui m'a choqué, que je vais vous lire in extenso, comme on dit. Une étude hautement scientifique qui a même été jusqu'à cartographier les lieux de villégiature de ces créatures paranormales. Et la surprise est de taille. L'Europe, avec ses manoirs, châteaux et ruines en tout genre, n'a pas du tout la préférence des fantômes, point d'exclamation. Les États-Unis arrivent en tête, suivis par le Mexique, 33%, le Canada, 27%, l'Océanie, 23%, et enfin l'Europe, 14%. Oui, oui, vous avez ça aujourd'hui écrit dans la presse dite sérieuse.
Ah ouais.
Ouais, ça fout la trouille. Alors on peut penser quand même, encore une fois, du second degré, mais non. J'ai cherché hein, quand même d'où sortaient ces chiffres. Et en fait, ils existent. Ces chiffres, ils circulent sur Internet. Hein, comme quoi, les fantômes vont plutôt là-bas qu'ici. Ouais, excusez-moi, ça me fait rire. Voilà. Alors moi, je me suis dit, plutôt que d'expliquer ces chiffres qui, de toute façon, sont bidonnés dès le départ, ce sont que des sondages à la con, on va essayer plutôt d'expliquer ce qu'elles sont les fantômes et d'où ça sort, cette histoire-là. Alors, je vais déjà le dire, le matérialisme, ça tue les fantômes. Oui, oui, si, c'est vrai. Alors les chiffres en fait qui ont été cités en fin de l'article de Tétu sont ceux qui courent sur Internet et notamment sur les sites. Alors j'ai découvert des sites surréalistes. Je vous inviterai pas à les voir et je vous les mettrai pas de gens qui croient aux fantômes tout ça avec des vidéos et tout. Enfin voilà, amusez-vous. Voilà. Ainsi aux USA, plus de 45% des gens croient aux fantômes et 40% affirment en avoir déjà vu. D'accord. Contre 15% en Europe et 7% en France et 6% en Europe qui affirment en avoir déjà vu et 3% en France. Voilà. Donc ces chiffres-là sont issus d'une étude par contre sociologique parce qu'ils ont détourné une étude sociologique qui avait été faite pour essayer de comprendre pourquoi aux USA les gens croyaient aux fantômes alors que dans le reste du monde pas vraiment. Vous voyez, là, l'étude était à l'inverse. Ouais. C'était pas une étude pour dire qu'il y a les fantômes existent, c'était une étude pour dire attends, c'est qu'on y croit en fait. Voilà. En fait. Et bien, figurez-vous que, comme toute croyance, les fantômes sont en lien avec la culture du pays et ses peurs. À prouver que nous sommes de pop culture américaine, on en oublie presque que chez nous, en fait, nous ne prenons pas les films d'horreur tellement au sérieux.
Chez nous.
En Europe, okay. Pardon, oui, chez nous, étant en Europe, je me mettais en opposition. Ni même n'avons peur de ce qu'on voit à l'écran, ce qu'on voit à l'écran se produise un jour. Généralement, en Europe, quand vous sortez d'un film d'horreur, vous en rigolez et puis vous dites, ouais, c'est cool. Pour prendre un petit exemple, parce que celui-là, je le trouvais parlant, le diffuseur de la série American Horror Story, pour ceux qui connaissent, il y a eu 7 saisons hein, déjà, avait demandé de répondre à un sondage dans lequel il demandait, pour vous, alors il a demandé ça à tout, partout dans le monde, hein, c'est-à-dire partout où la série a été diffusée.
Okay.
Donc pour vous, la série peut-elle se produire réellement dans le monde réel ? Vous voyez, c'est une question. Je vous rappelle, American Horror Story, il y a des démons, il y a des vampires, il y a des gens qui sont enfermés. Enfin, voilà. Ben en fait, pour 15% des téléspectateurs français qui ont répondu au sondage, la réponse a été oui. C'est déjà assez énorme. Hein. On se dit 15% de gens croient qu'en fait, un démon peut apparaître un jour, vous enfermer dans une maison et vous torturer. Voilà. Et ben, je résume. Hein. Et ben, en fait, ce qui m'a encore plus choqué, c'est que 63% des spectateurs américains ont répondu oui.
Combien ?
63%, 6 spectateurs sur 10. C'est assez énorme et on voit que les peurs, les craintes, les croyances sont très différentes d'une région du monde à l'autre. Les USA, il ne faut pas l'oublier, se sont construites sur des sectes religieuses chassées d'Europe, en grande partie. On a tendance à l'oublier, mais cela a influencé fortement la façon dont les Américains et la culture américaine s'est développée. Lorsque vous partez de sectes qui croient à la présence réelle du diable, comme c'est le cas des adventistes qui ont été très nombreux, ou encore aujourd'hui des certains évangélistes américains, ou la plupart des évangélistes américains croient au diable et à son influence aujourd'hui sur le monde, et ben forcément vos peurs et vos superstitions sont différentes de pays où qui ne se sont pas construits de la même façon que vous. Sans oublier que c'est un pays qui s'est fondé aussi sur un énorme massacre, celui des natifs américains, et que les massacres, ça laisse des traces parce qu'on a des peurs après. Juste pour mémoire, parce que je l'ai cherché, 33% des films d'horreur portent sur des croyances indiennes. La maison construite sur un cimetière indien, les rêves qui ne sont pas rattrapés par les dreamcatchers, tout ça, tout ça. D'accord. Donc vous voyez, ça laisse des traces dans la culture. Voilà. Donc en sous-estimant cette différence culturelle, on en oublie presque que la peur des fantômes est une construction sociale. L'Europe s'est construite globalement en opposition aux églises dans bien des coins des pays qui la composent et sur un matérialisme scientifique plus poussé qu'aux USA. Seulement, personne n'est imperméable aux influences. Et on note que dans la jeune génération actuelle, le retour du religieux et du paranormal, des superstitions revient en force. Rien d'illogique quand on sait qu'aujourd'hui, 70% des films et des séries consommées dans le monde sont des séries et des films américains. Et je ne m'exclus pas de ce 70%. Et comme pour l'article de Tétu, on notera donc que l'influence à croire est poussée dans ces médias. Automatiquement. Alors, le fantôme, c'est quoi réellement un fantôme ? Ouais. Ça vient d'où ça sort ce truc-là ? Alors, je vous rappelle, hein, dans les faits, c'est une âme en peine qui erre et qui vous torture ou qui vient vous rassurer, enfin tout ça, tout ça. Mais en fait, c'est quoi réellement ? D'où ça sort ce truc-là ? Alors, le paranormal, ça a été un sujet d'étude au 19e siècle partout dans le monde, au point que naissaient d'ailleurs plein de sociétés dites spirites, où on faisait du spiritisme, on parlait avec les esprits, tout ça, tout ça. Voilà. Mais à partir du 20e siècle, ces sociétés ont disparu une à une, notamment en Europe, sauf dans un coin du monde, les États-Unis, où elles sont encore aujourd'hui très présentes. Donc vous voyez, on voit que là aussi, il y a une différence assez importante. Et c'est logique parce qu'en fait, les USA, c'est la terre du « chacun a le droit de croire en ce qu'il veut et tu n'as pas à juger la croyance des autres ». Le problème, c'est que je serais d'accord avec cette phrase, le jour où la croyance des autres n'aura pas d'influence sur les autres. Alors, c'est pas tout à fait le cas. Le truc, c'est qu'il n'y a rien de neutre dans une société. Et quand une société détient l'hégémonie de la diffusion culturelle dans le monde, son influence devient énorme. Je reviens à ce que je disais au-dessus. Selon les scientifiques en neurosciences et en psychiatrie, le fantôme est une création de l'esprit humain, humain, parce qu'on n'en doutait pas trop, hein, qui peut nous faire même avoir des hallucinations ou voir la réalité avec un mode quasiment augmenté. Par exemple, une porte qui claque à cause du vent devient dans votre tête une porte claquée par le défunt grand-père. Voilà, c'est dans votre tête, hein, purement. Il n'y a que vous qui pensez ça, mais c'est vous qui vous construisez votre truc comme ça. Dans toutes les études neuroscientifiques qui ont été faites, la partie du cerveau qui s'active lorsque l'on pense voir ou que l'on pense à un moment où on a cru voir un fantôme est la même que celle qui s'active pour toutes les croyances. Elle n'est pas dans une partie raisonnée du cortex, mais bien dans la partie en lien avec notre capacité à nous mentir à nous-mêmes. C'est important de retenir ça.
Ouais.
L'explication la plus plausible avancée par les études de psy, c'est que le fantôme est un ersatz de plus de notre peur de la mort, tout simplement. Si les fantômes existent, alors nos proches décédés ne le sont pas vraiment. Ah oui, c'est logique, s'il y a des fantômes, nos proches, ils existent encore un peu, oui, quelque part. Et nous, quand on va mourir, on existera encore un peu. Et quelque part, ils ne sont pas vraiment morts, et nous, on ne sera pas vraiment morts non plus. C'est le même type de croyance que pour le paradis, par exemple. Une chose rassurante, sans autre fondement que la foi. Et je tiens à redire un truc, c'est bien la partie du cerveau qui est liée à notre capacité à nous mentir, c'est-à-dire c'est la même partie du cerveau qui s'allume quand on est sous hallucinogène.
Ouais, ça se tient.
Ça se tient bien, hein, tout ça. Voilà. Mais alors, il est où le problème, vous allez me dire? Parce que vous allez me dire, mais alors, il est où le problème? Chacun, il a bien le droit de croire en ce qu'il veut.
Oui, t'es contre la liberté individuelle des croyants,
tout
toi.
Tout ça. Alors, moi, le problème, il ne se situe pas vraiment dans le fait que les gens croient aux fantômes, ça, je m'en fous. Le problème, il se situe plutôt dans la crédulité. On sait aujourd'hui, par les études sociaux, mais aussi par l'observation, tout bêtement, hein, que plus une société est crédule, plus elle est manipulable, de fait. L'exemple de récent du Brésil devrait nous alerter. Bolsonaro a été élu au Brésil avec le soutien des églises les plus farfelues du Brésil, celles qui croient par exemple en la présence du diable ou à des choses comme ça, les évangélistes. Donc en fait, on voit bien qu'en fait, plus on abandonne sa logique et plus on cède à sa crédulité et plus on est facilement manipulable, y compris pour aller soutenir quelqu'un qui va à l'encontre de vos propres intérêts. Voyez, c'est pour ça que moi ça me pose un problème, parce qu'encore une fois, comme on l'a démontré dans l'histoire, plus la crédulité est installée et plus les personnes sont sous l'influence de leur peur et donc éloignées de leur raison. C'est ça moi qui me gêne, pas le fait que les gens pensent qu'il y a des fantômes, vous voyez, c'est un petit peu la différence. Donc oui, pour moi, même l'article de Tétu n'est pas anodin en ce courant de retour aux croyances et aux peurs, et toujours dans le but soit de nous flatter dans nos égos, ça c'est pour faire du commerce, hein, coucou Halloween, soit de nous manipuler un petit peu, parce que c'est toujours pratique d'avoir des gens qui croient et qui ont peur.
Mais de toute façon, des gens qui ont peur ne réfléchissent pas, ou en tout cas se tombent bien plus vite dans les bras de celui ou celle qui dit qu'il va les protéger. Et puis après, moi, ce qui me fait aussi halluciner, c'est toujours en fait ce truc de croire que, parce qu'en plus je pense que ça s'attache à des choses comme ça, que parce que les États-Unis, je sais pas, c'est blanc ou je sais pas quoi, et que l'Europe c'est blanc majoritairement, j'en sais rien, enfin, on est toujours dans ce truc un peu racialisant, bah qu'en fait on a la même culture.
Mais non, en fait.
Bah en fait, les gens, je vous invite vraiment, mais même rien que sur le pays là dans lequel on est, et ben allez dans un coin et ensuite aller dans l'autre coin complètement opposé, même en France. Ben, on n'a pas les mêmes cultures en fait. Mmh. Ça, c'est les récits des grandes nations, etc. C'est les romans nationaux. Mais alors, ça marche déjà pas à l'échelle d'un pays, mais alors à l'échelle de deux continents, enfin c'est quand même, il y a une bêtise crasse quand même dans ces genres de réflexions là. Ben non, en fait, on n'a pas les mêmes cultures, et effectivement c'est très bien le rappel historique que tu fais, parce que je pense que ça, évidemment,
par rapport au paranormal, c'est flagrant,
mais ça a son importance en fait. Et puis il faut pas oublier quand même les States, en fait, il y a quand même encore In God We Trust sur leur dollar quand même, hein. On croit en Dieu, quoi.
Ah, je croyais que c'était pour le groupe Trust antisocial.
ce qui pour moi, en fait, enfin, on devrait quand même toujours prendre ce pas de recul, quoi. Les États-Unis, c'est pas les sauveurs du monde et c'est pas ceux qui pensent le mieux de tout le monde, en fait, quoi. Sinon, on arrive dans un truc qui est très essentialisant, et croire que tout le monde, enfin bref.
Et c'est le problème de l'hégémonie culturelle.
C'est ça.
C'est un vaste débat sur lequel je reviendrai sûrement.
C'est ça. Et ben, on passe à la musique, ouais, en espérant que ça fonctionne.
Moi, j'ai mis le bon CD.
Ah ouais, c'est ça.
Avec son lourd passé, elle s'est pris un billet pour un endroit éloigné. On y avait dit que c'était beau, les aurores boréales dans le ciel de Chibougamau. Rien à voir avec Montréal. Elle s'est trouvée comme ça. au port royal. Elle s'est acheté une belle robe, se trouver cute, ça fait pas de mal. À tous les matins quand le soleil se sortait la tête du lac, elle remerciait un bout de ciel que sa vie soit encore intacte. Que dans le chaos, le fouillis, elle soit trouvée un coin de nord pour tranquillement refaire sa vie, enfin se fondre dans le décor. Elle avait quelque chose de discret, de la douleur dans les pupilles et des manches longues au mois de juillet. Elle avait bien aimé mettre l'aiguille dans ses veines, engourdir son humanité, noyer ses souvenirs qui reviennent.
Bien de retour dans la causerie, c'était les Cowboys Fringants avec le titre Pub Royal. C'est une chanson que je trouve assez magnifique. Voilà, j'avais envie de vous la partager avec vous.
Mais tu as bien fait.
Bah oui. On continue avec les brèves parce qu'on est un peu à la bourre.
Allez, allons-y, c'est toi qui commence.
Donc, les brèves, toute la semaine, permanence d'aide aux travailleurs sans papier, tous les jours de 10h à 12h à l'Union départementale CGT 215 cours Lafayette dans le 6e. Et ne quittez pas les brèves, on les fait en deux temps. À la fin, on vous parle des gens qu'on a reçus.
Aussi.
Voilà.
Oui, vous ne quittez pas, enfin. Donc, lundi 5 novembre, hein, c'est la permanence juridique, comme on annonce toutes les semaines, de soutien aux sans-papiers. C'est donc tous les lundis de 18h30 à 20h. C'est à la Lutine, au 91 de la rue Montesquieu, dans le 7e arrondissement.
Et toujours lundi 5 novembre, du grabuge chez les TCL. Des gens nous invitent à prendre part à un projet d'écriture sur les transports en commun lyonnais. Première rencontre prévue le lundi 5 novembre à 19h au Cédrats. Et Grabuche, c'est un nouveau collectif d'écriture dont l'objectif est de produire des contenus à destination des médias libres locaux lyonnais. Rebellion.info, Radio Canu. L'objectif est également de créer un fanzine. Voilà.
C'est ça, l'écrire pour faire un fanzine pour les gens. Mardi 6 novembre, c'est les permanences de la CNTSO, Solidarité Ouvrière. Donc, je vous lis vite fait leur présentation. C'est nous invitons à se syndiquer tous les travailleurs et toutes les travailleuses de la restauration, du bâtiment, des transports, des services à la personne en intérim. Toutes celles et ceux qu'on sous-paye, qu'on licencie sans ménagement et à qui on fait faire des dizaines d'heures supplémentaires sans les rémunérer, dont le travail et les efforts ne sont jamais reconnus, etc., etc. Toutes celles et ceux qui veulent faire respecter leurs droits et leurs personnes. Donc, pour ces travailleurs et travailleuses de la CNT Solidarité Ouvrière tient une permanence tous les jours, accessible avec ou sans rendez-vous, dans le local qui est au 8 de la rue Paul Lafargue à deux pas du métro Gratte-Ciel. C'est tous les lundi, enfin c'est tous les jours de la semaine entre 14 et 17 heures, sauf le mardi, c'est de 10 heures à 17 heures.
Voilà, et si vous êtes une autre organisation et que vous voulez nous donner vos permanences, lacausericanu@gmail.com et on les passera.
Allons-y.
Et donc jeudi 8 novembre, je sais pas pourquoi je voulais rester à mardi, jeudi 8 novembre, l'atelier du groupe Soins, penser collectivement les questions liées à nos manières d'être malades et en bonne santé et s'autonomiser dans nos pratiques de soins personnels et collectifs en partageant des expériences, savoirs et compétences. Et figurez-vous que le 8 novembre, c'est sur le système digestif et les viscères et ça se passe à l'Amicale. Voilà, soit l'Amicale, c'est 31 rue de la Griffe, je crois, de mémoire.
Oui, c'est ça.
Dans le 7e.
Sébastien Griffe. On passe donc à vendredi 9 novembre. C'est rencontre-débat à la librairie La Griffe autour du livre Sécurité maximale, le miroir déformant aux éditions de l'atelier de création libertaire sur les prisons de haute sécurité au Québec en présence de l'auteur Paul Malo et de Jacques Lesage de la Haye. Donc, Paulo Malo, il a été condamné à perpétuité au Canada. Il a passé 2 ans dans les quartier haute sécurité.
Paul, pas Polo.
Tu dis quoi, Paul? Ah oui,
on le connaît pas vraiment. Tu l'appelles peut-être Polo, mais non, c'est Paul Malo.
10 blocs Supermax. Il a été libéré après 13 ans et demi d'incarcération. Dans son livre, il raconte en fait son quotidien et ses rencontres. Donc voilà. Et Jacques Lesage de la Haye, en fait, c'est un. C'est lui qui animera donc, la rencontre. Et lui, il est militant anarchiste et psychothérapeute. Lui, il a été enfermé à Caen pendant plus de 11 ans dans les années 60. Il est formateur en analyse reichienne, auteur de nombreux livres et il anime aussi une émission hebdomadaire Ras les murs sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Donc cette rencontre, ce sera vendredi 9 novembre 2018 à 20h à la librairie La Griffe qui elle est au 5 de la rue Sébastien Griffe.
Et le samedi 10 novembre, le samedi 10 novembre, venez motivées et nombreuses à la prochaine rencontre sur l'hébergement solidaire des mineurs non accompagnés organisée par l'Apartage. Un point sera fait sur la situation des mineurs à Lyon et une présentation de l'association avant de réaliser un partage des expériences et des interrogations. C'est donc le 10 novembre à 16h au bar 6 pieds sur terre, 189 Grande Rue, 69 600 Oulin.
C'est ça.
Voilà.
Et on termine donc, comme tu l'avais dit, par des nouvelles des invités qu'on a déjà reçus. Alors, on va commencer. Je vais commencer avec les Lucioles Rouges, un duo musical qui passe au tremplin à tout bout de champ en audition publique. C'est mercredi 7 novembre à 20h. Et tout bout de champ, c'est aux deux rues de Tout, dans le premier arrondissement. Donc ça, on a dit, c'était mercredi soir. Et vendredi soir, vous pouvez retrouver les Lucioles Rouges qui seront en concert à l'épicerie Comptoir Porte-Peau à Vénissieux à 19h30, donc vendredi soir. Et l'épicerie, celle dont je viens de vous parler, est au 329 route de Vienne à Vénissieux.
Et oui, on avait aussi reçu Latar à une époque, il n'y a pas si longtemps que ça. Et il a des représentations de son spectacle au Carré 30. Alors du jeudi 8 novembre au samedi 10 novembre à 20h30, ou sinon le dimanche 11 novembre à 15h30. Proposition urgemment adressée avec son lot de bandes son bricolées qui annonce sa défaite avant même que ne commence la bataille. Latar raconte des bouts d'autrui passés à la moulinette, des poèmes et narrations ayant parfois dormi des années. Une profondeur, voire un abîme, se fait sentir. Le spectacle ose le rire comme pour se défendre. Voilà, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, et c'est au Carré 30, 12 rue Pizet, 69001 Lyon, et donc c'est entre le 8 et le 11 novembre.
Et bien voilà.
C'est Latar.
Eh bien, on a tout fini. Il est 23h01, c'est magnifique. On va pouvoir envoyer la musique.
Si on ne s'est pas trompé de CD.
Oh, ça va, c'est toi qui l'as choisi, c'est pas moi.
Et on se retrouve la semaine prochaine avec un invité.
Oui, la semaine prochaine, on recevra l'association Filaction qui lutte contre les violences conjugales. Dites conjugales. Donc voilà, donc on découvrira l'asso. Il y a un festival aussi qui est organisé par l'asso. Et donc vous en saurez bien plus la semaine prochaine, hein, dimanche 11 novembre, de 22h à 23h, sur La Causerie, sur Radio Canu.
Voilà, et on se quitte avec un extrait du nouvel album de Dead Can Dance. Et un nouvel album de Dead Can Dance, c'est toujours un événement. Et l'extrait, c'est The Mountain. Voilà.
Eh bien, on se dit à la semaine prochaine. Bon courage pour la semaine à
Salut.
Venir. Des bisous.
Bisous.
Ciao.
Ha ha.